Nous allons voir un épisode où justement Dieu se manifeste comme étant ce Dieu infiniment grand. C'est dans le livre des Juges, au chapitre 4, que je vous propose d'aller. Au chapitre 4, nous allons lire les 16 premiers versets d'abord, et puis nous irons aussi voir au chapitre 5 le cantique de Déborah. Après la mort d'Éhoud, c'est-à-dire le premier des juges que Dieu a envoyé pour délivrer son peuple, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Haroshet-Goïm. Yabin possédait 900 chars bardés de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam de Kedesh en Nephtali, et lui dit « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishon Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » Barak répondit à Déborah « Si tu m'accompagnes, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » « Sois, lui répondit-elle, j'irai avec toi. Mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Déborah se mit donc en route pour se rendre avec Barak à Kedesh. Celui-ci convoqua les tribus de Zabulon et de Nephtali. 10 000 hommes le suivirent et Déborah partit avec lui. À la même époque, Héber, le Kénien, s'était séparé des autres Kéniens, descendant de Hobab, le beau-frère de Moïse, et était venu dresser sa tente près de Kedesh, à côté du chêne de Tsanaïm. Sisera fut informé que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Il mobilisa toutes ses troupes et rassembla les 900 chars bardés de fer. Il achemina toute l'armée de Harodesh-Goïm vers le torrent de Kishon. Alors Déborah dit à Barak, « En avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire sur Sisera. Il marche lui-même devant toi. » Barak descendit du mont Tabor à la tête des 10 000 hommes. Alors l'Éternel mit en déroute Sisera, ses chars et toutes ses troupes par l'épée devant Barak. Sisera lui-même abandonna son char et s'enfuit à pied. Mais Barak poursuivit les chars de l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm et toutes les troupes de Sisera furent massacrées. Pas un homme n'échappa. Et nous lisons au chapitre 5 les 8 premiers versets. En ce même jour, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Bénissez l'Éternel. Voici qu'en Israël, on a laissé flotter les chevelures. Le peuple s'est offert pour le combat. Écoutez-moi, ô roi. Prêtez l'oreille au prince, je veux chanter pour l'Éternel. Je veux jouer de la musique en l'honneur du Dieu d'Israël. Ô Éternel, lorsque tu sortis de Séir, lorsque tu t'avanças depuis les champs d'Édom, la terre se mit à trembler, le ciel se fondit en eau, les nuées déversèrent une pluie abondante. Devant toi, Éternel, les montagnes ont vacillé, devant le Dieu du Sinaï, oui, devant l'Éternel, Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, et au temps de Yaël, les routes étaient désertes. Les voyageurs suivaient des sentiers détournés. Les villes d'Israël étaient abandonnées. La vie avait cessé. Alors moi, Déborah, je suis intervenue. Je suis intervenue comme une mère pour Israël. Le peuple d'Israël s'est choisi d'autres dieux. et aussitôt la guerre venait jusqu'à ses portes. Ils sont 40 000 soldats en Israël, mais pas un bouclier, pas une seule lance. Et puis un peu plus loin, versets 12 à 23. Debout, éveille-toi, Déborah, interviens. Debout, éveille-toi, entonne un chant de guerre. Toi, Barak, lève-toi, ramène tes captifs au fils d'Abinoam. Voici qu'un faible reste a triomphé des grands. Oui, le peuple de l'Éternel a maîtrisé pour moi les braves. Ceux qui ont vaincu Amalek sont sortis d'Éphraïm. Benjamin t'a suivi, il est parmi tes troupes. De Makir sont venus ceux qui ont commandé, et de Zabulon ceux qui tiennent le bâton de commandement. Les princes d'Issacar ont rejoint Déborah, et toute sa tribu, sur les pas de Barak, s'est précipitée dans la plaine. Dans les rangs de Ruben, on a délibéré et discuté sans fin. Pourquoi es-tu resté au milieu des enclos, écoutant bêler les troupeaux ? Dans les rangs de Ruben, on a délibéré et discuté sans fin. Galaad est resté au-delà du Jourdain. Et Dan n'a pas bougé d'auprès de ses vaisseaux. Aser est demeuré près du bord de la mer et s'est cantonné auprès des ports paisibles. Zabulon est un peuple qui a bravé la mort, et Neftali aussi, sur les hauteurs, dans la campagne. Des rois ennemis vinrent et ils nous combattirent. Oui, ils nous combattirent, les rois de Canaan, à Taanach, tout près des eaux de Megiddo. Mais ils n'ont emporté ni argent ni butin. Dans le ciel, même les étoiles ont pris part au combat. Du haut de leurs orbites, elles combattaient Sisera. Le torrent de Kishon les a tous balayés. Le torrent de Kishon, celui des temps anciens. Marchons avec hardiesse. Comme ils ont résonné les sabots des chevaux qui martelaient le sol. Au galop, fuyez, puissant coursier. L'ange de l'Éternel dit, maudissez mes roses. Maudissez, maudissez ces habitants. Ils ne sont pas venus prêter main forte à l'Éternel. Prêter main forte à l'Éternel au milieu de ces braves. Alors aujourd'hui, bon, il va y avoir plusieurs catégories de personnes. Celles qui vont participer au combat en allant voter. Et d'autres qui vont rester chez elles en craignant « il y a un lion dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue ». Ou alors, comme il est dit dans le livre d'Amos, des personnes qui sont comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours. Quel sera notre sort dans notre pays ? Allons plus loin tout de suite, à un autre niveau. L'histoire de Déborah et des tribus qui sont soit restées chez elles, soit se sont engagées aux côtés de Déborah, va nous parler en fin de compte de la manière dont Dieu veut nous faire connaître la victoire. Alors, malgré les craintes que nous pouvons avoir pour notre avenir, pour nous personnellement, pour notre famille, pour notre Église ou pour notre pays, j'espère que nous nous arrêterons sur cette dernière réalité, la victoire que Dieu veut nous faire connaître. Quelques mots sur la situation d'abord, la situation d'Israël. Nous sommes au XIIIe siècle avant Jésus. Les Israélites connaissent l'oppression, une oppression très lourde. La raison de cette épreuve nous est donnée. Ils avaient abandonné Dieu. Et donc les Cananéens les dominaient. Et les Israélites alors avaient cédé au virus de la politique du compromis, virus qui est beaucoup plus grave que celui de la grippe. Et Yabin, par ailleurs, le roi des Cananéens, avait sous ses ordres une armée redoutable, avec 900 chars bardés de fer. À l'opposé, en Israël, est-il dit au chapitre 5, verset 8, on ne voyait ni bouclier ni lance chez les 40 000 soldats. Mais en fait, ce déficit était précieux pour eux. Pourquoi cela ? parce qu'Israël alors ne pouvait plus avoir la tentation d'essayer d'obtenir la victoire sur le même terrain que les ennemis. Face à une réalité peut-être similaire, notre réaction peut être facilement le découragement, ou alors notre réaction est d'essayer d'obtenir les mêmes armes pour croire qu'on peut remporter la victoire. Alors nous nous appuyons facilement sur ce que nous possédons, ou au contraire que nous ne possédons pas, pour envisager la victoire ou alors la défaite. D'autre part, la situation en interne dans le pays d'Israël est bien lamentable. L'insécurité régnait. Il est dit, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. La raison est donnée juste après. Les chefs étaient sans force en Israël. L'anarchie régnait. L'angoisse et le désespoir aussi. Mais la confusion est avant tout spirituelle. Il est dit, Israël avait choisi de nouveaux dieux, de nouvelles priorités qui prenaient toute la place. L'abandon de Dieu est le début de la dégringolade à tous les niveaux. Sans parler, faut-il ajouter, des tensions internationales. La guerre était aux portes, aux frontières. Lutte au dehors, crainte au dedans, dit un chant. Alors cette situation est bien proche peut-être de celle que nous vivons dans notre pays, mais peut-être aussi sur le plan personnel ou familial. Nous pouvons relever autre chose dans ce texte, c'est-à-dire l'engagement. Après l'épreuve suscitée par Dieu pour amener ce peuple à se tourner vers lui, alors il se produit un changement salutaire, un changement qui n'est possible que par un engagement devant Dieu. Israël s'engage à nouveau vis-à-vis de Dieu en vivant une repentance vraie et profonde. Un philosophe juif écrivait « Le pire dans l'homme, ce ne sont pas ses péchés, car la tentation est grande et sa force est petite. Le pire dans l'homme, c'est qu'à chaque moment, il pourrait faire demi-tour, et il ne le fait pas. Ils crièrent à l'Éternel, voilà ce demi-tour nécessaire. Et ils vivent alors une conversion profonde en se tournant vers Dieu, en attendant tout de lui. Et alors, eh bien, Dieu répond. Il suscite une femme, Déborah. Elle était prophétesse. Elle transmettait la parole de Dieu. Une femme pleine de sagesse, d'humilité, à l'écoute de Dieu. Elle exerce, tout au long de cette histoire, un ministère de la parole. Assise sous le palmier, comme les autres maîtres, elle dispense un enseignement. Et à l'opposé de Barak, eh bien Déborah compte sur les promesses de Dieu et sur l'assurance de son intervention. L'engagement, c'est aussi eh bien, celui des 10 000 soldats. Mais c'est étonnant quand même, parce que Déborah avait, dans un autre texte, parlé de 40 000 soldats en Israël. C'est que, question d'émission, ils ont été gâtés. L'appel avait été fait aux 10 tribus, étant donné que les 2 les plus au sud étaient, semble-t-il, trop éloignés. Mais la réponse favorable pour s'engager dans la lutte contre l'ennemi n'est venue que de la part de 6 tribus, ou même de parties de tribus. Alors que du côté de Sisera, le commandant de l'armée cananéenne, eh bien, il est dit, tout le peuple était avec lui. Et les autres tribus. Les 4 qui ne sont pas parmi les plus lointaines, manifeste un certain égoïsme. C'est étrange, elles sont caractérisées par l'eau. Il est question des ruisseaux de Ruben, le Jourdain de Galaad, les navires de Dan, le rivage de la mer et les ports d'Azer. Alors, cela parle-t-il d'ouverture vers les autres, ou plutôt de fuite possible ? En fait, quand on est ouvert au monde, il n'y a pas souvent l'ouverture vers les siens. Ben Ruben, d'abord, il est décidé d'aller soutenir ses frères. Avec un petit problème pourtant, nous l'avons remarqué certainement, grandes furent leurs résolutions et les délibérations de leur cœur. Question par Lot et belle théorie, ils sont champions. Mais quant à agir, alors peut-être que Ruben, il faudrait qu'il se taise un peu aussi, hein, et qu'il agisse un peu plus. Bon, en fait, la tribu de Ruben agit en écoutant les belles mains des troupeaux. Il faut bien quand même s'en occuper et ne pas faillir à notre responsabilité. Chacun son métier, les brebis seront bien gardées. Galaad ne semble pas trop touché par ce qui se passe. Il est juste de l'autre côté du Jourdain. Chacun doit balayer devant sa porte. Là aussi, c'est le « moi d'abord » qui exclut les autres. Les frontières délimitent les intérêts, mes intérêts. Cette bataille ne concerne pas cette tribu. À eux de se débrouiller. À chacun ses problèmes, pourvu qu'on n'a pas à porter ceux des autres. Dan est resté sur les navires. Pas pour faire une croisière, mais pour du commerce. Pas le temps donc de soutenir les frères. Le commerce est exigeant, le planning est fort chargé. Il faut le comprendre quand même. Et puis il y a Azer. Pour cette tribu, par contre, ce n'est pas le stress professionnel qui l'étouffe, semble-t-il. Cette tribu se trouve pourtant tout proche du lieu du combat, mais en bronze au soleil. Il est assis sur le rivage, il se repose dans ses ports. Là au moins, c'est plus calme. Sinon, à quoi ça sert de s'être fatigué à construire des digues contre les tempêtes ? Vivre pour les autres qui appellent au secours n'est pas la préoccupation de ces personnes. Il est aussi fait mention à la fin de Méroz, inconnu au bataillon, au propre comme au figuré. Déborah dit à leur sujet, « Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel, car ses habitants ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. » En fait, cela signifie que celui qui ne vient pas au secours du peuple de Dieu ne secourt pas Dieu. Ce n'est pas que Dieu est faible et qu'il a besoin d'un sérieux coup de main, mais il a voulu la collaboration de l'être humain. Méroz dit qu'il ne veut pas s'impliquer. C'est un non catégorique. Cet égoïsme qui caractérise ces différentes tribus règne partout. Cela peut se voir au niveau de l'individu, du couple, d'une église. La solidarité et l'engagement seraient-ils une valeur qui disparaîtrait ? Dieu attend certainement un engagement concret, fondé sur un amour vrai, profond, qui vient de lui. Et puis, il y a la victoire, malgré les défections. Elle est étonnante, cette victoire, par les moyens employés. Dieu surprend par ses méthodes, souvent différentes des nôtres. Et cela, malgré les défections, malgré le petit nombre. Cette victoire, d'abord, elle est assurée par des individus et des tribus qui ont accepté de sortir de leur égocentrisme et qui ont décidé d'aller aider les autres. Les individus, eh bien, ce sont Déborah, Barak, malgré pas mal d'hésitations, de peur et de manque de confiance en Dieu. Il y a Jaël aussi, encore une femme, qui assure la victoire en tuant Sisera, le commandant cananéen, elle s'engage malgré les risques. Et puis on passe ensuite aux collectivités. L'engagement des tribus suit celui des individus. Les tribus de Nephtali et de Zabulon, appelées en premier, répondent présent et prouvent leur engagement en étant prêtes à affronter même la mort, est-il dit. Éphraïm et Benjamin viennent du sud pour les soutenir, même si ces tribus ne sont pas concernées directement. Et au centre, Manassé et Issachar les accompagnent. Mais quand même, malgré ce nombre-là, les Israélites sont beaucoup moins nombreux que l'armée ennemie. Nous voyons aussi que la foi n'élimine pas la réflexion qui elle-même est soumise à la volonté de Dieu. Déborah dit à Barak, en effet, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel ? Va, dirige-toi vers le mont Tabor. J'attirerai vers toi, au torrent de Kizon, Sisera, avec ses chars et ses troupes, et c'est là que je les livrerai entre tes mains. » Donc l'ordre que Dieu donnait était de refuser d'aller sur le terrain de prédilection de l'ennemi. Bon, c'est logique, pensons-nous. Mais pourtant, je crois que souvent nous faisons le contraire. Nous employons les mêmes méthodes humaines que les autres qui vivent sans Dieu pour essayer pourtant d'obtenir la victoire. Peut-être parce que nous ne savons pas exploiter ce que Dieu nous offre ou parce que nous ne croyons peut-être pas dans les armes que Dieu met à notre disposition. Qu'est-ce que l'arme la plus redoutable contre l'ennemi ? Alors cela nous conduit à ce qui est essentiel pour Déborah. L'Éternel donna la victoire sur les héros. La victoire n'est donc attribuée ni à la force d'Israël, ni à la faiblesse de l'ennemi, mais elle vient de l'intervention de Dieu. En pleine saison sèche, l'orage a embourbé les chars cananéens. Et Barak, qui signifie l'éclair, a fondu sur l'ennemi. Grâce à la confiance en Dieu, le faible devient fort. Le fort est confondu. Dieu se révèle comme le vrai maître de la nature. La victoire sur les cananéens est aussi une victoire sur Baal, le dieu de la nature et de la pluie. Alors oui, j'ai pensé à ce que l'apôtre Paul affirme dans la même perspective. Il est persuadé de la même solution. Dieu choisit les choses faibles du monde. Déborah, Barak, vous, moi, pour confondre les fortes. À condition que la reconnaissance de ma faiblesse me pousse à une vraie confiance en Dieu et non au découragement. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'une permission. Dieu permet l'épreuve face au péché d'Israël. C'est l'histoire d'une rémission. Dieu donne son pardon à Israël qui se tourne vers son Sauveur. C'est l'histoire d'une mission que Dieu confie à Déborah pour libérer son peuple. Et c'est l'histoire, enfin, d'une démission, au départ en tout cas, celle de Barak, qui n'accepte sa responsabilité que poussée par Déborah. Mais la victoire vient de Dieu. La condition, c'est la confiance dans la parole de Dieu, vécue dans un engagement pour Dieu, aux côtés des autres. Et c'est ce que nous voulons relever surtout, même si cela a mis 20 ans à se réaliser, même si beaucoup n'ont pas tenu leur engagement. Mais Déborah peut dire, le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. L'Éternel donna la victoire. Alors aujourd'hui, comment est-ce que je peux mieux vivre cela.